morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Premier.
Bonjour à tous, il est 9h50 sur Radio Prévert, c'est l'heure de votre matinale comme chaque mercredi. Bonjour Manon.
Bonjour Stéphane.
Et au sommaire, on va parler histoire, cinéma, littérature et musique. Et on commence tout de suite par faire un point sur l'actualité. C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. Météo France nous prévoit un temps nuageux sur tout le département. On pourrait également voir quelques flocons recouvrir les terres. Alors prudence, ça pourrait glisser sur les routes et les trottoirs. Les températures quant à elles restent froides. 0 à Saint-Vallier, Autun et Marcigny, 1 à Paray-le-Monial et les maximales sont attendues à Châlons, Louhans et Mâcon où on atteindra les 2 degrés. Jeudi et vendredi, c'est le retour d'un temps ensoleillé. Cependant, il faudra garder écharpe et bonnet, le mercure n'évoluera pas, les températures seront comprises entre 0 et 3 degrés. Les deux jours suivants, c'est un week-end similaire, le soleil sera une nouvelle fois de la partie, seuls quelques nuages devraient s'interposer. Avant un retour de la pluie dimanche, sur la Saône-et-Loire, les températures restent identiques. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash avec le séisme qui a touché Taïwan. Il était 23h50 heure locale quand un tremblement de terre de magnitude 6,4 a touché l'île. Des ponts et surtout deux hôtels se sont écroulés. Au moins une trentaine de personnes se trouvaient prises au piège. Depuis, les secours s'activent pour tenter de sauver des vies. Il n'y a pas encore de bilan définitif, mais le nombre de morts et de victimes ne cesse d'être vu à la hausse. L'île de Taïwan est régulièrement frappée par ce genre de phénomène. Un séisme s'était déjà produit au même endroit dimanche. On poursuit et on reste dans les phénomènes climatiques. Vous l'aurez sans doute remarqué, la neige a fait son grand retour sur le territoire depuis ce dimanche, ce qui a rendu complexe le trafic routier. L'Île-de-France et Paris est particulièrement touchée. Sur les routes, le cumul des bouchons a explosé. À 19h15 ce mardi, on cumulait 736 km de bouchons. Le précédent record est largement battu, il était de 562 km. Les transports ferroviaires et urbains ont été retardés, voire annulés. Ce matin, l'Île-de-France est totalement paralysée. Certains automobilistes sont pris au piège sur les axes routiers et ont passé la nuit dans leurs véhicules. La situation météo devrait tout de même s'améliorer dans les jours à venir. Et pour terminer, on ouvre un volet cinéma. À l'affiche dès ce mercredi dans les salles, un film qui a été maintes fois plébiscité lors de nombreux festivals ces derniers mois. C'est la fiction Jusqu'à la garde, le premier long métrage du réalisateur Xavier Legrand. La fiction met l'accent sur les violences conjugales. Elle met en scène une famille qui se déchire après un divorce et autour de la garde des enfants. À l'affiche, on retrouve par exemple Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gloria et Mathilde Honneveau. On y revient plus en détail dans notre chronique cinéma dans la suite de cette matinale. Voilà, fin de ce flash, on reprend notre série sur la mythologie nordique avec toi Manon. On ouvre donc une page histoire sur Radio Prévert.
C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Nom de Zeus, votre rubrique histoire, mythes et légendes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique mythologie. Mythologie nordique, évidemment. La semaine dernière, nous nous sommes attaqués au héros Beowulf. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, je ne vais pas vraiment vous rafraîchir la mémoire, vu qu'on va passer à un nouvel héros. Cet héros s'appelle Siegfried, ou encore Sigurd. Ah oui, hein, ils avaient des noms super à l'époque. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce héros et tout ce qui lui est arrivé, à lui ou sa famille. Et je vous le dis, il y a des noms particuliers et il est arrivé des choses particulières. Voilà. Alors, commençons. Sigmund, donc le père de Sigurd ou Siegfried, livre bataille contre les fils de Hundrig. Désolé pour la prononciation des mots. Il y combat le dieu Odin. Donc Odin, si vous vous souvenez bien, c'est le dieu des dieux là-bas, chez les Nordiques. Odin brise son épée et le blesse mortellement. Avant de mourir, Sigmund annonce à sa femme Ordis qu'elle est enceinte d'un fils. Oui, c'est le mari qui veut dire à la femme qu'elle est enceinte, parce qu'elle ne le savait pas avant. Il lui confie l'épée brisée appelée Grimbr à donner à leur enfant. Ordis se marie avec, ensuite, Alf Arkpresson, roi de Reland, donc c'est au Danemark, et à la naissance de leur fils, ils se rendent compte que celui-ci est exceptionnel. Ils l'aspergent d'eau et le nomment Sigur, ou Siegfried. Donc voilà la naissance de Siegfried, donc c'est un peu le merdier. Tous voient qu'il est exceptionnel. Comme il est coutume dans les sociétés nordiques anciennes, Siegfried est élevé par un autre. En l'occurrence, un monsieur appelé Reginn, qui est un maître forgeron du roi, qui lui apprend les exercices physiques et les runes. Sur les conseils de Reginn, Sigur demande un cheval au roi Alf. En allant se choisir un cheval, Siegfried est assisté par un vieil inconnu, qui n'est autre que le dieu Odin. Il choisit le cheval Grani, qui est le meilleur des chevaux, et le descendant de Sleipnir, le cheval d'Odin. Reginn conseille ensuite à Siegfried de se procurer l'or du dragon Fafnir, car c'est toujours plus sympa qu'un dragon. Reginn explique l'histoire de cet or. Il révèle qu'il est le fils de Ormar et frère de Fafnir et d'Ort. Donc là, Ort, c'est un géant. Une fois, les dieux Odin, Loki et Unir tuèrent Ort, qui s'était métamorphosé en loutre. Pour compenser le meurtre du fils de Enmar, Loki a dû ravir pour lui l'or du nain Andvari, qui par conséquent a maudit son trésor dans un anneau. Andvaranout. Des anneaux maudits, voilà. Moi, ça fait penser à Seigneur des Anneaux, personnellement. Pour qu'il donne la mort à chacun de ses possesseurs. Vous sentez la chose venir. Fafnir et Reginn ont ensuite tué leur propre père, Enmar, pour l'or. Ouais, c'est cool la famille. Mais Fafnir l'a gardé pour lui seul, et depuis il surveille son or sous la forme d'un dragon. Sigur, ou Siegfried, je le rappelle, demande à Reginn qui lui forge la meilleure épée jamais faite. Mais Siegfried brise successivement les deux premières épées que Reginn lui forge, en les frappant contre l'enclume. Voilà, je sens pas très... Voilà. Siegfried demande alors les morceaux de l'épée de Gram à sa mère. Et Reginn reforge l'épée qui est tellement tranchante et puissante que Siegfried parvient à fendre l'enclume jusqu'à la base. Donc si vous voyez ce qu'est une enclume, vous vous rendez compte à quel point cette épée est tranchante. Siegfried visite son oncle maternel, Gripir, qui a le nom de prophétie. Ce dernier lui révèle toute sa destinée, sa gloire et sa chute. Évidemment, c'est un héros. Et un héros, en général, ça chute, forcément. Reginn souhaite alors que Sigur, ou Siegfried, trouve Fafnir, donc le dragon. Mais le héros annonce vouloir d'abord forger son père des quatre frères fils de Ungir. Il demande l'approbation des rois, qui lui offrent de lui fournir tout ce qu'il désire. Siegfried se dote alors d'une superbe armée et les guide en mer sous une tempête. Un vieil étranger, qui est encore le dieu Odin, eh oui, se joint à la troupe en chantant les mérites de Siegfried. Lorsque l'armée débarque au royaume des fils de Ungir, Odin les quitte. L'armée dévaste leurs terres et elle remporte une grande victoire contre les armées ennemies où Siegfried tue personnellement tous les fils de Undrik. Et oui, c'est toujours mis en famille. Hein. C'est les fils qui n'ont rien fait, mais il les tuera quand même, voilà. La vengeance acquise, Siegfried accepte alors la nouvelle requête de Reginn de commander le dragon Fafnir. Je le rappelle, la vengeance, ça ne sert à rien. Ne faites pas comme les héros nordiques. Merci. Le poème édique, Fafnismal, et les chapitres 18 et 19 de la Vunsunga saga racontent le meurtre de Fafnir. Donc oui, à l'époque, il y avait pas mal de... Le Vunsunga, c'est... Comment dire ça, disons que c'est un peu le gros livre de la religion nordique. Un peu comme la Bible pour les chrétiens, quoi. Sigur arrive au lieu où le dragon Fafnir avait l'habitude de ramper pour se rendre à un point d'eau. Car oui, même les dragons ont besoin de boire. Comme conseillé par Reginn, Siegfried creuse une fosse où il pourrait se terrer et tuer Fafnir en lui transportant le cœur lorsque le monstre ramperait au-dessus. À ce moment, un vieillard, tiens, il y a beaucoup de vieillards dans cette histoire, qui n'est autre que le dieu Odin, et lui conseille de creuser d'autres fosses lui permettant de récolter le sang du dragon. Lorsque le dragon arrive, il fait trembler la terre et souffle du venin. Mais Siegfried n'éprouve aucune crainte et le blesse mortellement. Avant de périr, Fafnir demande à son meurtrier qui il est, puis il explique que son or est maudit, car il provoque la mort de chacun de ses détenteurs. Reginn demande ensuite à Siegfried de cuire le cœur du dragon et de lui donner à manger. En portant son doigt humecté du sang du dragon à la bouche, Siegfried comprend par magie le langage des oiseaux et des mésanges, ce qui raconte que Reginn compte le tuer pour récupérer l'or et qu'il sera avisé que Siegfried le tue. Alors le héros décapite Reginn, mange le cœur de Fafnir et se baigne dans son sang, récupéré dans les fosses d'Odin, comme il lui avait conseillé. Puis il suit la piste de Fafnir jusqu'à son repère et emporte tout l'or du dragon sur son cheval. Ensuite, Siegfried se rend vers Frakland, pays des Francs, où dort d'un sommeil magique une valkyrie nommée Brynhildr, ou Sigtrifa, selon les textes. Il arrive à une montagne où une lumière monte jusqu'au ciel comme des flammes. Lorsqu'il s'approche, il voit qu'un rempart de bouclier. Il le traverse et trouve la valkyrie qu'il réveille en lui coupant sa broigne avec son épée. La valkyrie enseigne au héros sagesse, secret et conseil. Puis, il se quitte après un serment de mariage. C'est beau. Nous verrons dans la suite de l'histoire s'il a vraiment suivi son serment. Siegfried se loge ensuite chez Emir, le mari d'une sœur de Brynhildr. Il y est accueilli avec grande louange. Brynhildr se loge également chez Emir et Siegfried l'aperçoit, son amour pour elle provoque en lui une grande tristesse. Alors il la rencontre encore et il réitère leur promesse de se marier. Mais Brynhildr prédit qu'il rompra la promesse et épousera Gudrun. Nous y reviendrons aussi. Siegfried lui offre alors l'anneau d'Endvari. Ah, j'adore les noms nordiques. Siegfried visite le roi Gjugti et sa reine Grimhildr. Ils sont parents de 3 fils, Gunnar, Ogni et Gumre, et d'une fille, Gudrun. Grimhildr souhaite que Siegfried reste et épouse sa fille, Gudrun. Ainsi, elle le fait boire un filtre d'oubli, de sorte qu'il ne se souvienne plus de son serment avec la Valkyrie Brynhildr. Ensuite, Siegfried, Gunnar et Ogni se flient d'une fraternité jurée, et Siegfried épouse Gudrun et qu'il a un fils qu'ils appellent Sigmundr. Car Sigmundr, c'était le nom du père de Siegfried. Et oui, nous avançons de plus en plus dans l'histoire. La chute approche de plus en plus. Grimhildr suggère à Gunnar de demander Brynhildr en mariage. Gunnar, ses frères et Siegfried voyagent chez Emir qui leur dit que Brynhildr n'acceptera d'épouser que celui qui traverserait le feu ardent qui entoure sa demeure. N'oublions pas, Brynhildr était censé épouser Siegfried. N'oublions toujours pas que Siegfried l'a oublié, à cause d'une potion. Oui. Les chevaux des frères refusent de traverser les flammes. Gunnar échangeur sa forme avec celle de Siegfried, et ainsi Siegfried fait bondir son cheval Grani au-dessus du mur de feu. Il se présente à Brynhildr comme étant Gunnar, et elle accepte, réticente de l'épouser. Siegfried couche 3 nuits dans son lit, mais place son épée Gramr entre eux. Puis il reprend l'anneau d'Endvari qu'il lui avait donné précédemment, et lui donne un autre anneau du trésor de Fafnir. Ensuite, Siegfried retrouve Gunnar et ils reprennent leurs formes respectives. Tandis que Brynhildr émet des doutes sur l'identité de son nouveau mari et confie la fille qu'elle a eue avec Siegfried Aslaug à son père adoptif Emir. Au banquet pour fêter le mariage, Siegfried se souvient des serments qu'il avait échangés avec Brynhildr, mais ne change rien à son comportement. Donc il s'en souvient, mais il fait comme si de rien n'était. Lors d'une dispute portant sur lequel de leur mari est le plus valeureux, Gudrun annonce à Brynhildr que c'est Siegfried qui l'a conquise, et non Gunnar. Et elle lui prouve en lui montrant l'anneau d'Endvari. Brynhildr accuse Siegfried de trahison, mais il défend les mérites de Gunnar et avoue son amour pour elle, bien que rien ne puisse être changé puisque les noces ont déjà été célébrées. Ouais. Ensuite, Brynhildr exige de Gunnar la mort de Siegfried, de son fils, en représailles pour cet affront. N'oublions pas, c'est une valkyrie. Une valkyrie, quand c'est rancunier, c'est rancunier. Alors Gunnar et Ogni chargent leur frère Gumbremor, qui n'avait pas fait de serment de fraternité avec Siegfried, de tuer le héros. À 2 reprises, Gumbremor entre dans la chambre de Siegfried pour le tuer, mais perd son courage face à son regard perçant. La 3e fois, Siegfried est endormi et Gumbremor le frappe de son épée. Mais il est tué par Siegfried. Avant de mourir, Siegfried dit à sa femme Gudrun qu'il accepte son destin et que la cause de sa mort est l'amour que lui porte Brynhildr. Pleine de regrets, Brynhildr annonce la naissance de la fille de Siegfried et de Gudrun, Svenhildr, et la trame du reste du cycle. Oui, donc elle est tombée enceinte de 2 hommes. Bon. Siegfried est brûlé sur un grand bûcher avec le fils de 3 ans qu'il a eu avec Gudrun et avec son meurtrier, Gumor. Brynhildr monte sur le bûcher embrasé et y périt. Par la suite, Gudrun se venge des meurtriers de son mari. Et on comprend un peu pourquoi. Parce que voir son mari et son fils périr dans des flammes juste à cause de la jalousie d'une autre femme, ça doit un peu faire mal, je pense. Nous avons donc fini avec cette chronique de mythologie nordique. Elle était un peu longue. Les histoires des héros nordiques, c'est toujours palpitant, mais toujours aussi un peu long. Merci donc d'avoir écouté cette chronique histoire. C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9.
Merci Manon, on poursuit en musique sur l'antenne de Radio Prévert. On écoute maintenant Maroon 5, Nolwenn Leroy et Lady Gaga. On parlera dans la deuxième partie de cette émission de cinéma avec la fiction jusqu'à la garde et littérature avec Manon. A tout de suite. Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
De sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages. nuage du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Marche sur la grève où les bateaux s'échouent, mais jamais la marée ne ramène nos hommes jusqu'à nous. Le vieux phare allumé, tranchant comme une lame, me rappelle que Cinca avait laissé chez lui sa femme qui marchait dans le sel, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit.
baby, I just need one good one to stay.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. De retour sur l'antenne de Radio Prévert, on va parler 7e art désormais, en évoquant un film qui sort dans les salles ce matin et qui fait déjà beaucoup parler, c'est la fiction dramatique Jusqu'à la garde, réalisée par Xavier Legrand, que nous avons eu la chance de voir en avant-première il y a quelques mois au cinéma.
Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert 105.9.
Jusqu'à la garde, réalisé par Xavier Legrand, sort donc dans les salles obscures dès ce matin. Pour le réalisateur, c'est son tout premier long métrage. Il met en scène une famille qui se déchire après un divorce. Les questions de la garde de l'enfant sont alors mises clairement sur la table et le spectateur fait alors face impuissant à un terrible drame familial qui se noue devant ses yeux. Déjà enfant, Xavier Legrand avait fait ses premiers pas sur le devant de la scène dans les années 1980. Au casting de Revoir les enfants de Louis Malle, il jouait le personnage de Babino. Le film retrace alors une période sombre de l'histoire dans les années 1940 où les rafles par la Gestapo étaient malheureusement courantes. En parallèle d'une carrière de comédien au théâtre, à la télévision ou encore au cinéma, c'est en 2013 que Xavier Legrand signe son premier court-métrage intitulé « Avant que de tout perdre », qui traite des mêmes thématiques, des violences faites aux femmes. Ce court-métrage a reçu de nombreux prix, notamment au festival de Clermont-Ferrand. Les codes de « Jusqu'à la garde » tournés en 2016 dans notre région à Chalon-sur-Saône, Beaune et Dijon sont alors posés. Le film est produit par KG Productions, la société de Costa Gavras, réunie au casting de très beaux noms. À l'affiche, on retrouve par exemple Léa Drucker qui joue Myriam Besson, la mère de famille, Denis Ménochet qui prend le rôle d'Antoine Besson, son conjoint, et également les deux enfants, Thomas Gloria qui interprète Julien et Mathilde Auneveu, Joséphine, sa sœur dans la fiction.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ?
J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Jusqu'à la garde, vous l'aurez compris, est un film dramatique qui expose un couple banal qui fait face aux difficultés de la vie. Durant près d'une heure et demie, le spectateur va ainsi suivre les rebondissements du couple Besson. Le père et la mère sont en procédure de divorce. Myriam accuse Antoine, son époux, de violence envers Julien, leur fils. Pour le protéger et l'éloigner de cet homme dangereux, Myriam en demande alors la garde exclusive. La juge des affaires familiales en charge du dossier accorde une garde partagée. Julien est tiraillé dès à présent entre ses deux parents. Comme pris en otage, le jeune garçon va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive. C'est alors toute une famille qui va devoir faire face à cet individu qui ne s'est pas conservé, son sang-froid. Xavier Legrand a donc fait de nombreux choix pour les acteurs de ce premier long métrage. Au casting, on retrouve donc les mêmes acteurs que dans le court-métrage « Avant que de tout perdre ». Ainsi, le choix de Léa Drucker dans le rôle de la mère de famille était donc tout trouvé. Il se confond, selon lui, avec le personnage de Myriam, par sa force et à la fois sa fragilité. Pour le réalisateur, les consignes étaient données. Et par exemple, à aucun moment, l'actrice ne devait prendre le rôle de la victime. On écoute désormais un extrait de l'interview du réalisateur et de Léa Drucker lors de la présentation du film à la Mostra de Venise.
J'ai voulu en fait suivre un homme qui a ce problème de violence, bien évidemment la cachant. La violence conjugale est une violence qui est cachée et par l'auteur bien sûr, mais aussi par les victimes. Donc en ne le présentant pas comme un homme violent, mais en racontant l'histoire de cet homme, mais du point de vue de ses ennemis.
On les connaissait, sauf que là, cette fois-ci, c'est une situation qui se passe un certain temps plus tard. au moment où cette femme, justement, a eu ce courage et cette audace de partir et de tenter de se reconstruire.
Myriam ?
Oui.
Julien
se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi.
Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge, je crois pas. Écoute-moi bien, il doit être avec moi ce week-end. S'il sort pas, moi je porte plainte.
On passe au père de famille, désormais interprété à l'écran par Denis Ménochet. Cet homme à la carrure forte convient en tout point à ce rôle de mari et père violent. Le personnage qu'il joue n'est pas simple. Il faut faire face à la violence, à la manipulation et bien sûr à la noirceur de cet individu. L'acteur joue un homme malheureux qui essaie par tous les moyens de se faire aimer par ses proches, mais sans doute maladroitement. Touchant dans certaines scènes parfois, il est donc difficile de rester insensible à ce personnage tantôt fort et tantôt poussé dans ses retranchements.
Salut mon cœur, ça va ? Tu peux aller chercher ta mère, s'il te plaît. Ah, Julien ? Julien ? Julien ? Julien ? Je vais te laisser y aller à la fête ce soir. Faut juste que je joue avec ta mère quand je te ramène et quand je te récupère, c'est tout.
Elle est pas là.
Mais si, elle est là.
Elle est pas là.
Si elle est pas là, alors elle est où ? Julien ? Elle est où ? Elle est où ?
Dans ton cul.
Enfin, les deux enfants. Pour Thomas Gloria, le tout jeune interprète de Julien, il effectue dans ce long métrage sa première expérience en tant qu'acteur. Afin de rentrer au mieux dans la peau de son personnage, un coach pour enfants l'a préparé à aborder pour être prêt sur le tournage. Sa sœur Joséphine, jouée par Mathilde Auneveu, quant à elle, a dû faire face à des tournages assez complexes du point de vue technique, car la plupart de celles-ci ont été tournées en plan séquence.
Alors Stéphane, ce qui fait aussi de ce film une nouveauté, c'est que les sujets des violences conjugales y est largement traité. Et pourtant, ça reste encore assez tabou.
Oui Manon, le long métrage de Xavier Legrand a de quoi susciter l'attention. Il n'est pas vraiment commun d'aborder dans une fiction les violences conjugales. En moyenne, pour vous donner quelques chiffres, pour l'année 2016, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, ou ex-conjoint d'ailleurs, quand un homme, lui, décède en moyenne tous les 11 jours. C'est un fait, et la fiction coïncide malheureusement avec les actualités sombres que la presse nous relaie. Même si les médias en parlent, le sujet reste tabou. Il est alors difficile pour la victime de se confier, et bien souvent, les proches ne s'immiscent pas dans les histoires de couple. À travers Jusqu'à la garde, Xavier Legrand ne voulait pas en parler à la manière d'un dossier d'actualité comme il le relate dans une interview à la presse. Il a donc donné plus d'importance à sensibiliser le public face à ces drames en jouant notamment avec son intelligence et avec les nerfs du spectateur. Le spectateur qui, lui, voilà, est constamment sous tension. Que va-t-il se passer ? Le degré de violence grimpe et la menace du père violent est permanente. Comment la mère et ses enfants vont-ils pouvoir s'échapper de l'emprise de cet être dangereux ? Vous l'aurez compris, la peur est le point névralgique de la fiction. Les femmes victimes de violences conjugales sont en alerte perpétuelle. Tout peut basculer soudainement.
Stéphane, tu nous parles du film. Mais aurais-tu des anecdotes, comme on a l'habitude de le faire chaque semaine dans notre rubrique cinéma ?
Effectivement Manon, et on commence avec la première anecdote. 3 films ont guidé le réalisateur Xavier Legrand dans l'écriture de son long métrage, Kramer contre Kramer, La nuit du chasseur et Shining. Ces 3 longs métrages ont permis de faire un travail de réflexion vis-à-vis des thèmes qu'il voulait traiter, mais également à trouver les ambiances ainsi que les traits des personnages. Kramer contre Kramer est un film sur le droit parental. La nuit du chasseur montre comment les proches peuvent jouer avec les enfants pour arriver à leur fin. Shining, quant à lui, met en avant la folie et la terreur. Seconde et dernière anecdote, c'est un choix assez particulier que le metteur en scène a entrepris dans Jusqu'à la garde. Il y a en effet peu de musique. L'attention de la fiction provient essentiellement du bruit du quotidien, comme le clignotement d'une voiture ou encore l'écho dans un logement. Par ce procédé, le spectateur est mis face à la réalité des choses et rentre dans l'univers du film. On le remarque aussi, tout au long de ces 90 minutes, le metteur en scène a privilégié la répétition des mêmes cadrages dans les lieux importants, par exemple, afin de créer un sentiment de familiarité, mais d'enfermement aussi, au contraire, comme il le relate dans la presse.
Outre sa sortie ce matin, j'imagine que Jusqu'à la garde est une fiction qui t'a plutôt intéressé. Mais pour quelle raison ?
Alors effectivement, Manon, ce film est très beau et bien construit, je trouve. J'ai rarement vu une fiction qui remue autant. Le jeu d'acteur n'y est bien entendu pas pour rien. Chacun colle parfaitement à son personnage. Jusqu'à la garde est une réussite incontestable. La fiction est poignante, forte. Elle ne laisse pas insensible et indifférent. Il y a une tension perpétuelle qui se construit et s'installe au cours de ces 90 minutes. Une ambiance presque angoissante qui va prendre en otage le spectateur. Les actes violents interviennent de manière crescendo. À chaque instant, la violence peut prendre en tenaille le spectateur. Il n'y a donc aucun répit, c'est un véritable trailer. Sans vous raconter le final du film, bien sûr, je peux vous dire que les dernières minutes sont extrêmement difficiles et largement insoutenables. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que l'on voit et ce que l'on ressent. On ne ressort pas indemne de la séance, il faut du temps pour s'en remettre. Xavier Legrand est vraiment un jeune réalisateur prometteur. Et pour terminer, Jusqu'à la garde fait déjà beaucoup parler de lui. Déjà très ovationné, la fiction a reçu un nombre considérable de prix, et entre autres le Lion d'argent de la meilleure mise en scène, ainsi que le Lion d'argent du meilleur premier film à la Mostra de Venise en septembre dernier, l'un des plus grands festivals à portée internationale dans le monde du cinéma. Le meilleur est donc à venir pour ce film qui ne cesse de recevoir des récompenses. Voilà, on arrive au terme de cette chronique cinéma. Une seule chose à faire, c'est vous rendre dans les salles dès aujourd'hui. Quant à nous, sur Radio Prévert, on poursuit et on ouvre une page littérature, désormais avec toi, Manon.
C'était Ciné News sur Radio Prévert 105.9.
Quoi de neuf au CDI ? La chronique littéraire sur Radio Prévert 105.9.
On se retrouve pour une chronique littérature. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à la série Mercy Thompson, qui est une série de romans fantastiques écrite par Patricia Briggs. Dans cette série, on suit la vie de Mercedes Mercy Thompson, jeune femme n'étant pas comme les autres. L'action de cette série se passe en grande partie dans les Tri-Cities, aux USA. Je vais maintenant vous donner un petit synopsis de la vie de l'héroïne. Mercy, ou Mercedes, est la fille d'un indien Blackfoot et d'une mère blanche. C'est une changeuse. Donc une changeuse, elle a hérité cette particularité de son père. Et en tant que changeuse, elle peut se transformer en coyote. Son père était un homme qui faisait du rodéo et qui est décédé 3 jours à peine après sa conception. Donc on peut pas dire qu'elle l'a beaucoup connu. Un jour, sa mère trouva à la place d'un bébé humain un petit coyote dans son berceau. Ayant eu peur et ne sachant pas comment l'élever, elle l'emmena vers la seule personne qui pourrait l'aider selon elle, son arrière-grand-oncle, un loup-garou. Ce dernier met la mère de Mercy en contact avec Bran Cornick. C'est lui et sa meute de loup-garou qui la prennent sous leurs ailes. Bran est le Maroc, c'est-à-dire le chef, l'alpha de tous les loups-garous d'Amérique du Nord. Donc la fiction se passe aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord. Il n'y a que très peu d'informations sur ce qui se passe en Europe. Passons à l'héroïne. Mercy est une femme forte et indépendante. Elle se débrouille seule et compte essentiellement sur elle-même. Ou en tout cas en début de la série. Loin d'être parfaite, elle a des défauts, comme sa capacité à trop se mêler de la vie des autres, ce qui l'amène inévitablement dans une mer de problèmes, ou encore son imprudence qui peut mettre en danger les personnes qui l'entourent. Elle reste une jeune femme au caractère de flamme et à la détermination détonnante, mais qui cependant ressent les aléas de la vie. Elle ne reste donc pas de marbre. Il n'est pas rare de voir à certains moments le personnage se poser des questions. Son caractère et sa façon de penser va beaucoup évoluer au fil de la série et des différents événements qui lui arrivent. Je vais maintenant vous donner un rapide avis sur cette série. J'ai personnellement grandi avec cette série, et l'image donc d'une femme forte. Quand j'ai commencé la série, il n'y avait que 3 tomes de sortie. Actuellement, il y en a 10. Donc c'est bien pour vous dire que je l'ai bien suivi. On peut dire que j'ai une grande estime de cette série de livres. Étant passionnée de fantastique en plus, cela tombait sous le sens. Je trouve ce livre tellement innovant et évolutif. Bref, si vous aimez la fiction, il faut la fiction et le fantastique, il faut lire ce livre. On ne fait pas face à un personnage de type Marissou. Donc pour ceux qui ne savent pas, un Marissou, une Marissou ou un Garissou, ce sont les personnages parfaits, que parfaits dans l'univers. Elle est belle, il est beau, elle est forte, il est fort, il ne leur arrive jamais rien, ils sont capables de sauver tout le monde. Wow! Ce n'est pas très intéressant, je trouve. Avec Mercedes, on fait vraiment face à une femme qui évolue dans son environnement. Au tout début de la série, elle est seule, déjà. Voilà, elle est célibataire, seule. Sa famille habite je ne sais où aux États-Unis, je crois au Texas. Et elle vit seule dans les Three Cities. Alors, pour ceux qui ne savent pas les Three Cities, si vous avez vu Twilight, vous avez vu les Three Cities. Voilà. C'est le même endroit. Et donc, elle vit seule dans les Three Cities, dans une caravane. Voilà, ça change un peu. Et elle habite près d'une meute de loups-garous. Donc, voilà, voilà. Pour vous donner une idée, dans cette série de livres, il y a des loups-garous et des vampires. Non, les vampires ne sont pas comme dans Twilight, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Les loups-garous sont des vivants meutes. Donc, ça me paraît logique, en fait, là, quand je dis ça. Donc, dedans, dans les groupes de loups-garous, il raconte dans le livre, il y en a plusieurs. Et en fait, elle va s'enticher de l'alpha de la meute de loups-garous qui habite dans sa région. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas facile dedans. En fait, on a toute une société dedans, en fait. C'est pas juste une meute, en fait. Tu as plusieurs meutes et tu as après toute une hiérarchie selon ta puissance. Et dedans, d'ailleurs, dans ce livre, on aborde le sujet des femmes loups-garous qui, parce qu'elles sont des femmes, sont sous-estimées par rapport aux hommes et sont obligées d'être soumises. Donc voilà, petit parallèle avec avant, dont nous a parlé Stéphane. Donc dans ce livre, on touche aussi également à tout ce qui touche aux femmes, et donc le fait qu'elles soient soumises, qu'elles puissent être maltraitées, etc. Mais c'est pas apporté sous la même manière que dans d'autres livres. Après, pour tout ce qui est vampires, etc. Donc les vampires dedans, c'est pas des agneaux, c'est des créatures vraiment démoniaques, en fait, qui vivent terrées, et qui ont à leur disposition une bergerie. Donc une bergerie, c'est en fait un troupeau d'humains qu'ils ont la plupart du temps kidnappés et dont ils se servent pour se nourrir. Voilà. C'est cool, hein, la bergerie, les moutons, tout ça, on adore. Il y a les fae. Donc je pense que vous ne savez pas ce que c'est qu'un fae. Les fae, c'est un terme qui est largement utilisé, mais surtout en Angleterre. Donc fae, faeries, c'est en fait le nom de tout ce qui est les créatures, genre les elfes. Elfes, lutins, banshees, et bien d'autres joyeux lurons. C'est tout ça. Donc tout ce qui est, comment dire ça? Voilà, toutes les créatures elfiques, en fait, de près ou de loin, qui peuvent se métamorphoser. Donc c'est assez large. Et dedans, en fait, on raconte, dans l'histoire, en fait, les fae ont révélé leur existence au monde. Ce qui fait qu'en fait, ils se retrouvent, tout comme les Amérindiens d'Amérique, dans des réserves, parce qu'on a peur d'eux, et qu'on a peur de ce qu'ils peuvent faire, on les met dans des réserves. Donc l'auteur, par différents stratagèmes, et par, en fait, ces groupes fantastiques, on peut dire, a montré différentes choses. Donc par exemple, les fae, référence aux Amérindiens qui se retrouvent dans des réserves. Dans les loups-garous, on a un système de monarchie en fonction de la puissance, où les femmes sont totalement soumises. D'ailleurs, les gays, d'ailleurs, sont aussi soumis en général dans les meutes de loups-garous. Et voilà, tout si tu es une femme, ou si tu es gay, ou je sais pas quoi, tu es tout en bas de l'échelle sociale. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Donc, d'ailleurs, l'auteur va nous montrer comment il faut savoir accepter les autres, en fait. Et comment il faut savoir lutter contre les préjugés et pour ce en quoi on croit. Je pense précisément actuellement à un personnage, précisément un personnage gay d'ailleurs, dans ce livre, qui est un loup-garou, et qui est en fait un personnage viril. C'est l'archétype extrêmement viril, l'homme très viril, cow-boy, etc. Et qui, du fait de son homosexualité, s'est retrouvé totalement piégé dans sa peau, dans sa vie, et qui ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et c'est en se battant, etc., qu'il va réussir à se faire accepter et à devenir d'ailleurs l'un des plus puissants de la meute. Rien que ça. C'est un de mes personnages préférés parce que il est trop chou et trop fort. Voilà. Après, chez les vampires, on a totalement les gens manipulateurs et drogués. Voilà. Tout simplement. Imaginez dedans, la moitié des vampires dont on nous parle sont des gros manipulateurs qui se jouent de la politique, qui en gros manipulent tout ce qui est politique, etc. Et en fait, qui jouent également sur tout ce qui est trafic de drogue, en gros. Enfin, les personnes qui mettent dans leur bergerie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont en général des personnes seules, dépravées, droguées, etc. Rien que ça. Donc, l'univers de ce livre est très riche, sachant que l'héroïne l'est aussi. Parce qu'il faut s'imaginer que ce n'est pas forcément simple, également, d'avoir des origines amérindiennes aux États-Unis. On n'en parle pas assez, mais là-bas, les Amérindiens, ils n'ont pas de vrai statut de citoyen. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce n'est pas évident pour eux. Et je pense que ce serait intéressant de lire cette fiction juste pour ça, en fait. Pour voir l'évolution également d'une femme qui va subir des choses, car elle va subir, il me semble... J'ai pas envie de spoiler, mais je vais spoiler un petit peu. Donc spoiler, pour ceux qui ne savent pas, c'est révéler un détail de l'histoire. Dans un des volumes, je ne dirai pas lequel, elle va se faire quasiment violer, en fait. Et on va voir le personnage se retrouver face à des angoisses et des peurs. Et l'auteur va réellement nous plonger dedans et sur comment elle va s'en sortir, en fait. Petite anecdote, elle a tué son violeur. Voilà. La vengeance, c'est mal. À part dans certains cas, finalement. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir ce livre qui est bien complet. En général, on dit que les livres de fantastique, c'est juste voilà pour rigoler, etc. On dit, ouais, Harry Potter, c'est un livre pour enfants. Ouais, Le Seigneur des Anneaux, c'est juste un petit truc fantastique. Non. Un livre fantastique peut contenir un univers très riche et on peut apprendre beaucoup de choses via ça. Ne sous-estimez pas un livre à son genre. Voilà, j'ai donc fini cette chronique littéraire et nous allons donc passer aujourd'hui, maintenant, à autre chose.
C'était Quoi de neuf au CDI sur Radio Prévert 105.9. Merci Manon, on poursuit en musique sur l'antenne de Radio Prévert avec Icar, Mons aimez le Naps en featuring avec Soprano. On parlera dans la dernière partie de cette matinale de musique avec une initiative locale et avec le traditionnel Le Savez-vous. À tout de suite. Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Comme tout le monde, on pourrait filer à l'anglaise, à petite foulée sur les braises. On irait faire un tour à Londres, ou juste faire le tour du monde. Ce que tes yeux me rendent un peu bête, t'as emménagé dans ma tête. On pourrait partir n'importe où, pour que tu viennes à Vienne avec moi. T'acheter une écharpe au cachemire, danser le rock au Maroc, pourquoi pas voir Dali à Dali s'il est là. J'inventerai tout pour te faire plaisir, même cette fois c'est écharpe en cachemire. Sur ta vie, on ramassera dans les décombres les souvenirs dont tu as envie. On sera jeune, on sera fou, on jettera nos montres dans la Seine avant de quitter la terre ferme. On pourrait partir n'importe où, n'importe où. Pourvu que tu viennes à Vienne avec moi. Acheter une écharpe au cachemire, danser le rock au Maroc,
Népal. On y fera le carnaval en pèlerinage à Rio, même si le bon Dieu est plus haut. On fera une rave au Vatican, on ira surfer au Liban, on fera du ski au Sénégal, pourvu que tu viennes, ça m'est égal. Pourvu que tu viennes à Vienne avec moi, boire un rhum à Rome, je ne sais pas. Tout ce qui te ferait plaisir. Danser le rock au Maroc, pourquoi pas? Voir Dali Anneli, s'il est là. J'inventerai tout pour te faire plaisir. Même cette fausse écharpe en cachemire.
Destiny. Never walked the road before, though we longed to search for more. We put everything aside with our futures on the line. I could say it's 'cause of you. You showed the dream we walked into. I saw the danger on the way, but with you it seemed okay. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire is the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain. I remember every night I gave my hope, you gave your life. We could mend our every scar just by looking at the stars. In my mirror I saw you, everything I need to see. The reflection set me free. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire is the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain, like fire in the rain. Like fire in the rain. When the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. In the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain, like fire in the rain.
Tu l'as voulu juste pour toi. On est calé, on est cool. Je sors du quartier, c'est le petit frère qui tient. juger. On peut pas l'effacer. Le passé, c'est le passé. Suivez-moi, je vais tracer. Laisse-moi juste les clés. Faut qu'on se balade. Changer des corps avant que je m'impose. Y'a que semble qu'on est fort. On se connaît dans notre corps, tu connais le dos. Même si t'es mon bébé lourd, on a les mêmes secrets qu'on emporte dans la dos.
Hier j'étais tout seul, ça m'a fait gamberger. Je me suis pas fait tout seul, y'avait du monde au QG.
On peut pas l'effacer. Le passé c'est le passé. Suivez-moi, je vais tracer. Laisse-moi juste les clés. Faut qu'on se balade.
Comme le guetteur, ces choses se montrent de malade. Oh là que ça fait peur, j'ai toujours la balafre. Monsieur l'inspecteur, poto, je suis pas là. Oh là, je suis ailleurs. Envie, je me balade. Capuché comme le guetteur, ces choses se montrent de malade. Oh là que ça fait peur, j'ai toujours la balafre. Monsieur l'inspecteur, faut qu'on se balade.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. Music Time, votre magazine sur les dernières nouvelles et sur l'histoire de la musique. On se retrouve pour parler musique et initiatives locales sur Radio Prévert. Et aujourd'hui, on reçoit Barbara Trojani, qui est donc chef de chœur et directrice musicale au sein de l'association Musique Plurielle à Chalon. On va commencer tout de suite... Barbara, par parler donc de l'association, est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi elle consiste, Musique Plurielle ?
C'est une association qui est née en 1985 et qui a pour objectif de promouvoir et de diffuser de toute forme d'expression musicale, notamment le chant.
Concrètement, donc, les objectifs, vous venez de les évoquer, mais qui peut rejoindre justement l'association ? C'est ouvert à tous ?
C'est ouvert à tous. Il y a plusieurs types d'ateliers, des ateliers... pour très jeunes enfants, entre 3 et 8 ans, des ateliers d'éveil musical, ouverts à tous. Des ateliers pour adolescents, qui se passent en général pendant les vacances scolaires. Et des ateliers pour adultes, il y en a plusieurs. Les ateliers vocaux, que je dirige conjointement avec Vincent Dumangin, et que j'ai fondé en 1987. Et l'autre atelier, qui est un autre type d'atelier, pour adultes aussi. Pour l'autre atelier, je crois que tout le monde peut y rentrer, les ateliers vocaux. Je fais passer une petite audition parce que, comme ça a été créé en 1987, le niveau est monté, le niveau musical, et donc on a un petit examen de passage très simple.
Très bien. Et justement, au sein de cette association, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme style musical ? Qu'est-ce que vous proposez justement pour les gens qui aimeraient vous rejoindre ?
Du point de vue du répertoire, il est très varié. Ça peut être de la musique chorale dite... assez classique, entre guillemets, renaissance, même médiévale, romantique, et de la musique dite ethnique, c'est-à-dire des chants du monde, enfin tout ça en polyphonie, la plupart du temps, du jazz, du brésilien, et aussi beaucoup de chemins de traverse, de la musique contemporaine. On pratique aussi beaucoup l'improvisation, le rythme, les percussions vocales et corporelles.
Qu'est-ce qui aboutit justement à tout ça? J'imagine qu'il y a des représentations au public.
Alors, donc, Musique Plurielle, ce sont des ateliers, justement, hebdomadaires ouverts à tous. Et il y a aussi des prestations, donc qui sont de deux types. Prestations assez conventionnelles de concert. En général, le public apprécie beaucoup parce que le répertoire est très varié. Et je dois dire aussi que nous n'avons pas de partition, même quand ça fait 12, 13 pages à apprendre par cœur. Beaucoup de langues étrangères, donc les choristes apprennent tout par cœur et sont mis en espace par la comédienne et metteur en scène Claire Monod. Donc c'est très vivant. Donc en tout cas, nos concerts sont ouverts à tous. Il ne faut pas être spécialiste d'une musique quelconque pour pouvoir apprécier. C'est assez ludique et attractif. Donc nous avons des concerts sous forme conventionnelle et différents projets depuis plusieurs années. Nous avons été 3 fois dans le Hymne de Chalon dans la rue pour un type de projet. Nous essayons en fait de toucher des publics qui ne vont pas au concert, par le chant. Alors, où sont-ils, ceux qui ne vont pas au concert? Ils sont dans la rue, dans des édifices publics comme la poste, la préfecture, les magasins, et ils sont chez eux. Alors, nous avons déjà fait plusieurs types de projets qui pouvaient permettre ces rencontres, justement, en allant là où ils sont.
Avant d'aborder un point que vous venez d'évoquer, parce qu'on va parler du presto dans quelques instants, on va plus parler de vous, justement. Donc, vous êtes chef de chœur et directrice musicale. En quoi ça consiste, brièvement, votre métier au sein de Musique Plurielle?
Ça consiste en choisir le répertoire musical qui va se faire dans l'année, avoir une pédagogie qui permet aux gens de progresser, et dans le cas des ateliers vocaux de Musique Plurielle, de pouvoir chanter un par voix, c'est-à-dire être responsable musicalement, de ne pas s'appuyer forcément sur quelqu'un d'autre. En fait, ce n'est pas une chorale, c'est un atelier vocal où on expérimente diverses choses, et à moi de connaître les voix, de savoir les allier pour faire des petits groupes et de leur faire découvrir des répertoires.
Et que tout soit au final harmonieux et que tout roule sur des roulettes en quelque sorte, c'est ça?
On essaye. Voilà, ce sont des choristes extrêmement enthousiastes et qui m'aident beaucoup dans cette démarche. Et je suis aussi en co-direction avec Vincent Dumangin, qui est chef d'orchestre et chef de chœur depuis quelques années. Voilà, par ailleurs, j'ai un métier de comédienne et de musicienne, professionnellement, ce qui rejaillit beaucoup sur ma pratique en milieu amateur à Musique Plurielle. Ça m'aide beaucoup d'avoir aussi une activité professionnelle dans la musique.
D'accord, très bien. Et donc, évoquer maintenant le sujet de cette émission. C'est le nouveau concept au sein de l'association Musique Plurielle, c'est le presto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce nouveau concept, justement?
Le presto, ça consiste en deux parties. Un camion qui va sortir sur les places de Chalon, Saint-Rémy, Saint-Marcel, Champforgeuil, et j'en oublie une. Enfin, moi, je trouverai tout à l'heure. Et d'une part, je vais vous expliquer après ce qui se passe autour de ce camion, et surtout des livraisons de chants à domicile. Ceci a déjà été fait par notre association en 2005, ça s'appelait Allo Chanson. Et ça a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les Chalonnais. Et on avait envie, c'est d'ailleurs l'idée de Claire Monod, qui était déjà à l'origine de Allo Chanson, on avait envie, parce que pour Allo Chanson, il y avait un standard, et les gens commandaient les chansons avec un standard. Là, on avait envie pour toucher encore plus de monde, d'acheter un camion, de le customiser. Là, en l'occurrence, ce sont des scénographes de Berlin qui l'ont customisé. Et de faire des animations musicales autour de ce camion, et pour que les gens viennent s'inscrire quand le camion sort, viennent s'inscrire à l'avance pour les livraisons chez eux. On ne s'inscrit pas en ligne, on ne s'inscrit pas au téléphone, il faut la rencontre pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est très important pour nous que les gens viennent à ces rendez-vous réguliers. Donc le camion Presto, c'est à la fois un camion, un contact avec le public, avec de la musique qui se passe dans le camion, qui ne sera pas du tout la même que celle des chants livrés chez eux, et des livraisons de chansons à domicile, c'est-à-dire dans l'intimité. Ce n'est pas du tout pareil que le camion dehors. Et il y a même une idée, c'est Claire Monod qui a eu l'idée aussi, de drive-in. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas nous recevoir chez eux, certains jours, ils pourront avoir la chanson dans leur voiture.
C'est-à-dire dans la voiture, en quelque sorte.
C'est-à-dire, s'ils sont deux à l'avant, j'imagine un couple ou une personne, trois chanteurs s'installeront à l'arrière et leur chanteront la chanson. Voilà.
C'est très original, en tout cas. Et justement, il y a un côté relationnel, et l'objectif, concrètement, donc, comme vous le dites, c'est réunir les gens, leur faire découvrir d'autres choses également. Par exemple, voir des petits concerts, des choses que les gens ne font peut-être pas forcément par eux-mêmes, clairement. C'est un petit peu ça, l'idée du concept aussi.
Alors, c'est plus vaste que ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un mini concert, puisque les chanteurs, avec un rituel d'ailleurs, chanteront une seule chanson. Donc, c'est un concert de 3 minutes, on va dire. Avec le camion, qui a une ambiance qui n'est pas intime, donc qui est beaucoup plus festive, c'est une rencontre collective, il y a une idée de collectif, où les gens peuvent communiquer, les chanteurs vont communiquer avec le public, il y aura des tables, sans doute des boissons offertes, outre les manifestations musicales. Donc c'est plus collectif, c'est dans la rue. Après, ce qui se passe dans les maisons, c'est quelque chose d'intime, de poétique, et oui, d'extrêmement humain, c'est-à-dire le chant comme un lien humain, comme un don, parce que ces chansons sont gratuites, quelque chose que l'on donne aux gens dans à leur domicile, dans leur intimité. Le chant comme vecteur d'humanité, en fait.
Oui, c'est un lien social, en quelque sorte, et une manière de partager un peu son talent, entre guillemets, auprès du public, auprès des gens, un petit peu, en quelque sorte, dans un moment assez convivial, au final.
Oui, certainement, hein, un moment convivial et poétique. Et les choristes travaillent beaucoup pour essayer de faire une prestation qui soit belle, de leur chant. Et c'est vrai que, soit dans les concerts, soit là dans une forme originale à domicile, c'est important de pouvoir redonner ce pourquoi on a tant travaillé, ce pourquoi on s'est donné avec passion.
Très bien. Donc là, il y a l'aspect un petit peu public. Est-ce qu'il y a également un aspect, est-ce que vous proposez justement ce système de camion pour, par exemple, les professionnels à l'avenir, en quelque sorte, travailler avec les professionnels lors d'événements?
Éventuellement. On n'y a pas encore pensé, parce qu'on a d'autres soucis pour l'instant d'organisation, oui.
D'accord, oui, ça pourrait être une démarche à l'avenir, ça peut être une éventualité.
Peut-être. Il y a aussi une autre éventualité, c'est que de refaire ce projet plus loin que Chalon, puisque le camion est là, mais ça, on n'en a pas parlé, donc je pourrais vous dire là-dessus.
D'accord, oui. Donc là, concrètement, les zones d'action, c'est sur la région chalonnaise, en quelque sorte?
Alors,
comme vous l'aviez un petit peu dit tout à l'heure.
On peut commander des chansons à Chalon, Saint-Marcel, Saint-Rémy, Châtenois-le-Royal et Champforgeuil. Donc oui, il y a 5 communes. Oui.
Très bien, oui, donc c'est dans la zone de Chalon et c'est très très local, en quelque sorte.
Donc j'incite tous les gens qui sont sur ces communes à se renseigner et à commander des chansons chez eux et même inviter leurs amis pour l'événement, quoi.
Donc oui, pour une personne lambda qui souhaiterait donc un peu vous rencontrer, vous accueillir, accueillir le camion en quelque sorte, faut qu'elle se rende sur l'un de ces lieux à des dates précises, c'est bien ça?
Oui, le camion va sortir tous les samedis de mars, le premier samedi d'avril, le 7 avril, et ensuite les vendredis soirs et samedis après-midi aussi. Donc nous avons les dates et les lieux précis à partir du 3 mars, samedi 3 mars. Ça sera à peu près de 15h à 19h, je pense. Et donc ils peuvent aller sur le site de Musique Plurielle, mais vous le direz sans doute plus tard, oui, pour savoir. La première sortie, c'est le samedi 3 mars, 15h Saint-Marcel et 16h Saint-Rémy. Mais il y a beaucoup d'horaires, beaucoup d'endroits, donc il faut se renseigner.
Oui, donc là, c'est vraiment la toute première date du camion officiellement, le lancement officiel en quelque sorte.
Non, le lancement officiel, c'est la veille, vendredi 2 mars, aux abattoirs sur les quais.
Aux abattoirs, d'accord.
Où on fait l'inauguration, oui.
Donc l'inauguration, c'est le 2 mars.
Oui.
Donc c'est à retenir.
Voilà. Et je dois dire aussi que les livraisons chez les gens à domicile se passeront entre 18h30 et 21h30.
Pour ces dates, qui est à l'initiative des musiques, justement, au choix des musiques qui vont être proposées au public?
Alors, à domicile, oui. Alors, je suis à l'origine du choix des musiques. Donc, j'ai travaillé à peu près 2 mois cet été pour les écouter, pour les choisir, pour éventuellement les arranger à plusieurs voix, parce qu'on va chanter en polyphonie, ça c'est important. Donc, un par voix. Ils ne sont que 3. Il n'y a que 3 chanteurs à domicile. Ce sont des chansons qui sont soit du domaine du jazz, du brésilien, des musiques du monde, beaucoup de la chanson française, il y en a beaucoup en français. Voilà, je les ai choisies parce que j'ai trouvé belles, donc tout simplement. Et la musique qui se passe dans le camion, c'est complètement autre chose, parce que j'ai composé des morceaux qui sont avec des instruments de batterie de cuisine.
D'accord.
Et des petites chansons autour. Ça n'a rien à voir, la musique qui sera au camion n'aura rien à voir avec la musique des chants à domicile.
Au domicile, oui. Donc il y a deux choses vraiment distinctes avec deux,
oui.
deux on va dire, programmations très différentes et très variées.
Le camion, c'est un lieu convivial, collectif, où on vient écouter de la musique, rencontrer les chanteurs de musique plurielle et commander ses chansons.
Très bien. Et justement, pour le particulier ou les personnes qui souhaiteraient vous voir, parce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant? Y a-t-il une rémunération à donner en quelque sorte?
Alors, pour le public, tout est gratuit, y compris les sorties camion, enfin les rencontres autour du camion Presto, du Presto, et les livraisons à domicile aussi. Ça serait dommage de s'en priver.
Ça fait partie peut-être des objectifs, comme vous le disiez tout à l'heure, de réunir les personnes aussi, comme il n'y a pas l'aspect argent derrière qui peut entrer en ligne de mire.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est, l'argent, enfin le pouvoir d'achat n'est pas une barrière à pouvoir accéder à ce don, à ce service, quoi, poétique et ludique et intime. Ça ne peut pas être une barrière.
Il y a la culture.
Oui, évidemment, à la culture aussi.
Et justement, avec ces interventions, est-ce que ces interventions sont à chaque fois différentes et à chaque fois uniques vis-à-vis des chants proposés?
Alors, les chants proposés, il y en a une vingtaine.
Oui.
Donc, on peut même commander plusieurs fois. Si vous commandez 10 fois, on fera attention que vous ayez 10 chansons différentes. Voilà. Autour du camion, ce sont les mêmes morceaux qui se passent à chaque fois. Mais comme ce n'est jamais la même équipe, il ne se passera jamais la même chose. Il y a quand même une petite partie d'improvisation parce que c'est... J'ai écrit la musique du camion, mais Claire Monod fait la mise en scène théâtrale. Il y a des personnages, il se passe des petites choses drôles, enfin voilà. On pourra avoir intérêt à y aller plusieurs fois, je crois.
D'accord, oui.
Aussi.
Justement, on parlait tout à l'heure de musique plurielle avec vos représentations. Là, on parle plus sur l'aspect programmation et construction du Presto avec le camion. Quelle préparation, justement, ça demande vis-à-vis... vis-à-vis de ces concerts que vous avez l'habitude d'avoir avant, justement, avec le musique plurielle?
Alors, évidemment, ce n'est pas la même préparation. Il faut déjà diviser l'ensemble des choristes. Là, il y en a 37, je crois, qui participent au projet. En trio, donc ça veut dire qu'il y a un quatuor, parce qu'il y a un nombre impair, donc il y en a qui sont 4. C'est-à-dire déjà prendre soin de bien assembler ce trio. En gros, il faut une voix basse, une voix médium et une voix élevée. Voilà. Donc il y a certains trios où il y a une voix d'homme, deux voix de femme, et il y a aussi des trios où il n'y a que des femmes. Alors déjà, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, faire le programme et l'attribuer à chaque trio, savoir, en connaissant les personnes, ce qui leur conviendrait le mieux, et vocalement et du point de vue du goût, de ce qu'elles aiment. Ensuite, faire les répétitions. Et ça, on fait des répétitions donc en petits groupes, suivant les morceaux. Donc ça demande l'établissement d'un planning très important et souvent de l'aide extérieure, d'ailleurs. Donc nous sommes deux, principalement, à faire apprendre cette musique, donc Vincent Dumangin et moi-même. Et nous avons fait appel aussi à Catherine Faure, qui est chanteuse et musicienne professionnelle, et Marie Fraschina, également chanteuse et musicienne professionnelle, qui nous aide au coup par coup, parce qu'on a tellement de groupes, on a 12 groupes et plusieurs chants par groupe, qu'on ne peut pas, en l'espace de 3 heures de répétition, voir tout le monde. Ouais. Ça demande, on a déjà fait un week-end au mois de janvier, et on en fera un autre en mars. Ça, c'est pour la partie livraison chant. Pour la partie presto, nous sommes en résidence à l'abattoir depuis début janvier, et nous avons travaillé au moins 3-4 fois à l'abattoir avec le camion, parce qu'il fallait un endroit pour le camion, dans l'atelier de l'abattoir. D'ailleurs, je les en remercie au passage, notamment Bruno Alvernia. Et on a pu répéter là-bas, voilà. Avec Claire Monod, on a répété la musique et Claire Monod la mise en scène. Et au cours du mois de mars, on va finir de fignoler, si je peux dire, les chants. Et Claire Monod va mettre en place un rituel pour la livraison des chants à domicile. Voilà.
Donc ça fait quand même beaucoup de choses à gérer.
Je dois dire que pour les choristes, c'est assez redoutable. Pour la mémoire et l'investissement.
D'accord, oui.
Mais en même temps, enthousiasmant, je pense.
Ouais. Oui. Justement, anecdotiquement, le nom du Presto, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi ce nom, justement, pour ce camion?
Alors, Presto, rapidement, enfin... Alors, on a cherché longtemps le nom du camion. Pendant longtemps, on a eu Camion Chanson, qui n'était pas si mal, mais c'était quand même moins poétique, le Presto. Le Presto, ça évoque deux choses. À la fois d'aller vite, éventuellement pour un concept, entre guillemets, food truck. Mais là, en fait, c'est une préparation de chanson qu'on fait. On met des ingrédients sonores pour préparer une chanson. Pas pour préparer une pizza, mais c'est de la nourriture sonore, la nourriture musicale. Et presto, ça veut dire rapidement, mais c'est aussi un terme musical. Donc on imagine très bien des pizzaiolo qui disent presto pour aller plus vite. D'ailleurs, on l'emploie dans notre chaîne musicale que l'on fait autour du camion. Et on peut s'apercevoir qu'il y a un parallèle, il y a souvent des mots qui sont communs au vocabulaire culinaire et au vocabulaire de la musique, comme piano par exemple. Et oui. Presto, c'en est un aussi, quelque part. Voilà.
Il y a un petit parallèle entre, oui, comme vous dites, la cuisine et la musique, le plaisir aussi d'entendre, de déguster, enfin, oui.
Alors, ce qui est en parallèle, c'est le plaisir, bien sûr, de déguster, le plaisir de préparer, et le fait que, comme une composition, composer, c'est faire avec plusieurs éléments, et ce qui est la même chose, quelque part, en cuisine.
Une recette.
Oui.
Concrètement. On va arriver au terme de cette émission, de cette interview. Est-ce que vous avez un mot à évoquer, à nous dire avant de refermer ce programme ?
Ne ratez pas nos rendez-vous camions pour vous inscrire, pour commander des chansons.
Très bien, merci Barbara pour être venue dans le studio aujourd'hui. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet donc, de Musique Pluriel, musiquepluriel.fr, et sur les réseaux sociaux donc, de l'association, donc Facebook et Twitter. C'était Music Time sur Radio Prévert 105.9. On poursuit donc dans cette matinale et on va passer au traditionnel Le Savez-vous avec toi Manon, c'est à toi.
Le Savez-vous ? Les anecdotes les plus insolites et tout ce que vous ne saviez pas, c'est maintenant sur votre fréquence. On se retrouve pour trois informations insolites. Nous allons commencer par la première information, donc, qui est un concours de beauté de chameaux en Arabie Saoudite. Ce concours de beauté a lieu tous les mois et a été créé par le roi Abdulaziz. Ce concours se déroule tous les mois de janvier, pardonnez-moi. Et donc, le dernier concours a été réalisé très récemment. Cependant, durant ce concours, des concoureurs on fait des injections de toxines botuliques dans les lèvres, le nez et la mâchoire de leur chameau. Évidemment, dans le but de gagner en faisant paraître l'animal beaucoup plus beau aux yeux du jury. Ce concours pour le moins original accueille 30 000 chameaux tous les ans et s'élève à 45 millions d'euros, pour les heureux gagnants. On comprend donc leur hargne de gagner, parce que c'est quand même une sacrée somme. Ensuite, deuxième information insolite. En Angleterre, plus précisément dans l'université de Sussex, les chercheurs ont découvert un phénomène appelé contagion de la température. Comme son nom l'indique, c'est contagieux et c'est en rapport avec la température. Ici, on parle de corporel. Selon ce phénomène, regarder notre personne frissonner, par exemple, ferait baisser notre propre température corporelle. Pour vérifier ce phénomène, différentes expériences ont eu lieu. Une d'elles consistait à faire regarder à des personnes une vidéo de personnes plongeant leurs mains dans de l'eau glacée. Les personnes qui regardaient la vidéo voyaient la température de leurs mains diminuer, rien qu'en regardant la vidéo. D'ailleurs, je pense que vous pouvez constater vous-même ça chez vous. Par exemple, si vous regardez une émission de personnes faisant une expédition en Alaska, par exemple, vous allez sentir votre température corporelle baisser. D'après le neuroscientifique Ney Harrison, cette réaction serait due à de l'empathie. Cela nous permettrait donc de nous mettre à la place des autres et de mieux les comprendre. Troisième information insolite, et cette fois en Inde, nous faisons un petit tour du monde. Un jeune homme de 32 ans, Rajesh Maruthimaru, a connu une mort assez originale. Il a en effet été littéralement aspiré par une machine d'IRM alors qu'il rendait simplement visite à un membre de sa famille à l'hôpital municipal Bail de Mumbai. Selon l'enquête, un membre du personnel de l'hôpital aurait donné à l'homme une bouteille d'oxygène à mettre dans une pièce, où se trouvait donc l'appareil IRM. Or, l'appareil était encore allumé, donc ce qui est donc une grave faute du personnel de l'hôpital. Je le rappelle, un appareil à IRM est magnétique. Il a donc attiré la bouteille d'oxygène à lui, ainsi que l'homme qui la portait. Évidemment. La bouteille d'oxygène, en percutant l'appareil, a explosé et l'homme a donc péri à cause des trop grandes inhalations d'oxygène. Son corps, d'ailleurs sous l'impact, saignait abondamment. La police a évidemment arrêté un des médecins et un des membres du personnel pour négligence. Ce genre de choses ne devrait jamais arriver dans un hôpital si tout était réellement surveillé. Ces informations sont désormais terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Et cela va donc clore la matinale. C'était Le Saviez-vous sur Radio Prévert 105.9.
Voilà, on arrive donc au terme de cette matinale sur l'antenne de Radio Prévert. Merci Manon.
Merci Stéphane.
Et on vous donne rendez-vous donc pour la prochaine matinale le mercredi 7 mars dans un mois tout pile dès 9h50. Très bonne semaine à vous, très bon week-end et à très bientôt sur l'antenne de Radio Prévert.
Good morning. Good morning. Good morning.
Good morning.
Whoa. Good morning. And good morning, Radio Prevent.